Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, le juge Demba Kandji, médiateur de la République, ancien premier président de la Cour d'appel de Dakar. Il est l'invité de Georges Détidiop. Plusieurs questions. La troisième alternance politique, les annonces fortes du cinquième président de la République du Sénégal, les réformes de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature et l'abrogation des nominations lors de la réunion du 29 mars dernier, les concertations nationales, la réconciliation nationale et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Demba Kandji face à Georges Détidiop, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM.
Merci de suivre la RFM, merci de suivre le Grand Jury. Mesdames, Messieurs, bonjour. Demba Kandji, bonjour.
Bonjour, Monsieur Georges Détidiop.
Merci d'être venu au Grand Jury. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie de me permettre une fois encore de revenir sur cette antenne de la RFM pour parler de ma mission, de mes missions et pour parler peut-être de l'actualité, surtout de l'actualité judiciaire et des perspectives qui sont annoncées, comme vous l'avez dit dans votre bande-annonce tout à l'heure.
Médiateur de la République depuis août 2021, ancien président de la Cour d'appel de Dakar, et où vous avez occupé d'ailleurs à un certain moment les fonctions d'avocat général. Ce dimanche 7 avril, notre pays continue de célébrer sa troisième alternance avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye, le plus jeune président de l'histoire du Sénégal, 44 ans, qui a formé vendredi son premier gouvernement. Une journée importante dans la marche de nos institutions, mais une journée de deuil avec le rappel à Dieu à Paris de l'ancien Premier ministre Mahamad Boun Abdallah Dione, un grand serviteur de l'État qui, même avec une santé fragile, avait encore des ambitions pour son pays. Les témoignages sont unanimes. RFM prie pour le repos de son âme et présente ses condoléances à sa famille, ses amis, à la République tout court. Demba Kandji, il était de l'exécutif lorsqu'il était Premier ministre, vous du judiciaire avant d'être détaché à la présidence de la République. Malgré la séparation du pouvoir, vous connaissez sans doute l'homme.
Oui, Monsieur Diop, je connais l'homme. J'ai connu l'homme, un grand serviteur de l'État d'abord, parce que moi je l'ai connu justement dans le contexte de la présidence de la République, où j'avais été détaché en qualité de ministre conseiller juridique du président de la République pendant une année. Pendant quelques mois, on a cheminé ensemble et j'ai appris à côtoyer un homme, un grand serviteur de l'État, un grand travailleur, mais également une personne aux qualités humaines incommensurables. Un monsieur qui vous accueille toujours avec le sourire, malgré disons sa réputation de bourreau du travail. Il savait travailler, il savait commander des hommes. Je pense que le Sénégal a perdu en Boun Abdallah Dione un digne fils, un grand fils. Et moi, je voudrais quand même, par-delà cette évocation de nos relations professionnelles, présenter mes condoléances à sa famille, son épouse, mais surtout à Cheikh Diop Dione, son grand frère, que je connais depuis que j'ai servi en 1984 à Louga en qualité de président du tribunal de cette localité, de cette région. Vraiment, le Sénégal perd avec un Boun Abdallah Dione un grand fils. Puisse le clément et miséricordieux l'accueillir en son paradis et vraiment le rétribuer amplement pour tous les bienfaits qu'il a eu à dispenser sur terre. Voilà ce que je peux dire, parce que nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu. Aujourd'hui, c'est Boun Abdallah Dione, demain ce sera peut-être notre tour, ainsi de suite, ainsi va la vie. Mais je pense que c'est quand même une perte, parce qu'il avait beaucoup d'ambition pour son pays. Quand on l'a vu s'engager dans cette compétition électorale, c'est déjà vraiment la preuve qu'il avait de l'ambition pour son pays.
Que Dieu l'accueille à son paradis.
Amin, Bidja et Nabloussa.
Alors, Monsieur le médiateur de la République, selon certaines indiscrétions, vous devriez vous rendre au Maroc pour signer une convention avec votre homologue du royaume chérifien. Déplacement annulé ou reporté parce que vous ne voudriez pas gêner les nouvelles autorités.
C'est pas que je ne veuille pas gêner les nouvelles autorités, mais je me dis que, bon, le contexte, nous avions prévu avec mon homologue, le médiateur du royaume chérifien, de signer cette convention, c'est vrai. Mais d'abord, il y a eu ces élections. Ensuite, c'était pour les dates du 23 et du 24 avril. Ça me semble un peu juste. Et je ne veux pas, moi, dans ce contexte, je veux quand même attendre un peu. J'ai préféré déplacer la date, s'inédier. Voilà. Mais c'est pas pour gêner les nouvelles autorités. Non, c'est pas lié. Mais je veux juste quand même me donner le temps. Parce que nous venons de célébrer une troisième alternance. Peut-être qu'on en parlera.
Bien sûr.
Bon, ça ne me semble pas approprié pour le moment. Je préfère attendre le mois de mai, le mois de juin peut-être.
Pour avoir leurs avis également.
Bien sûr. Parce que moi, je suis quand même une institution de la République. Et je relève de la présidence de la République. J'ai trouvé que ce n'est pas très élégant que le président s'installe à peine, que moi je m'absente, je préfère pas. Vraiment, je ne veux pas me pencher là-dessus. Mais ce n'est pas une gêne particulière que j'aurais par rapport aux nouvelles autorités, non, mais je pense que l'élégance républicaine voudrait qu'on laisse quand même celui de qui nous tirons notre légitimité s'installer avant de penser à ces choses-là. Voilà,
élégance pour élégance. Quand on fait le parallèle avec les dernières décisions qui ont été prises par l'ex-chef de l'État Macky Sall à quelques heures de son départ, à quelques heures de la passation du pouvoir, décision légale mais inélégante pour beaucoup. Vous vous situez de quel bord?
Vous savez, M. Diop, moi je suis quand même médiateur de la République. Et comme tel, je ne peux pas commenter les décisions, même prises par un président qui est sorti dans tel ou tel contexte. Je préfère vraiment dire que j'en ai eu vent par rapport, par la presse, locale. Je n'ai pas vu le décret. On m'a dit que le décret a été rapporté. Je préfère ne pas commenter. Moi, je commente qu'après avoir lu.
Mais à sa place, qu'auriez-vous fait?
Je ne serais pas à la place du président de la République, ni de celui qui rapporte, ni de celui qui prend la décision. Je préfère ne pas commenter, parce que vous savez, commenter pour un médiateur de la République, c'est s'enfermer. Parce que moi, je suis une voie de recours. D'une manière ou d'une autre, le débat peut se poser devant moi, devant mon institution. Si je donne déjà un avis, je risque de m'enfermer et ça risque d'être préjudiciable à l'institution.
Mais vous maîtrisez le fonctionnement de la justice. Parmi ces décisions, celles prises lors de la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature, abrogée par décret par le nouveau président, est-ce que la voie empruntée par l'actuel chef d'État est la voie normale?
Mais je pense que qu'il devrait s'agir d'un retrait de l'acte. Bon, un décret a été pris par son prédécesseur, il l'a retiré. Maintenant, c'est un décret du Conseil supérieur de la magistrature, c'est vrai. Et j'ai eu vent de qu'il aurait pris la tâche des membres du Conseil supérieur. Vraiment, je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller plus avant dans le commentaire. C'est un décret qui a été pris après délibération de l'organe qu'est le Conseil supérieur. Et il a pris la tâche. Il aurait pris la tâche, après la presse qui relate toujours, des membres avec lesquels la délibération s'est faite. Bon, je pense que pour le reste, maintenant, on laissera la chambre administrative éventuellement trancher, s'il y a un recours. Mais dire que bon, c'est pas bon, c'est pas régulier, c'est pas du ressort.
Justement, c'est là que je voulais en venir.
C'est pas du ressort du médiateur.
Pour beaucoup, il devrait respecter le parallélisme des formes en se fondant sur la loi organique portant composition et organisation du Conseil supérieur de la magistrature.
Peut-être, mais s'il prend la tâche des membres du Conseil, ça veut dire qu'il a déjà respecter peut-être ses formes, je ne sais pas trop. J'ai lu dans la presse...
Consultation à domicile, par exemple.
Oui, mais bon, certainement, il n'a pu faire que la consultation à domicile. Parce que bon, il n'a pas réuni entre-temps le Conseil supérieur de façon présentielle. Mais vraiment, je voudrais garder mon commentaire sur ce sujet. Bon, c'est quand même du sable mouvant pour moi, parce que je n'ai pas vu le texte. Je n'ai fait que, bon, disons, glaner des bribes ça et là dans la presse. Et vous savez, le médiateur de la République, c'est quand même une voie de recours. ça peut rejaillir devant mon institution. Donc je préfère ne pas trop m'avancer.
On vous le concède.
Voilà.
Alors, nous restons tout de même avec le Conseil supérieur de la magistrature, sa composition, son organisation. Beaucoup de candidats à l'élection en ont parlé, le débat est vieux. Pour beaucoup, une indépendance de la justice passe par un Conseil supérieur de la magistrature où ne siège pas le président de la République. Un Conseil supérieur de la magistrature qui n'est pas dirigé par le chef de l'État qui incarne l'exécutif. Vous avez siégé au Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que le chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature constitue une entrave à la bonne marche de la justice, à son indépendance?
Merci beaucoup, M. Diop. Moi, d'abord, je voudrais citer vos auditeurs par rapport à cet organe. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe qui est d'abord, d'après la Constitution, dédié destiné à assister le président de la République, garant de l'indépendance de la justice. C'est également, d'un autre côté, un organe chargé de veiller à l'indépendance de la magistrature cette fois. Le président de la République, garant de l'indépendance de la justice, dit la Constitution. Mais l'autre rôle du Conseil, c'est de veiller à l'indépendance de la magistrature. Voyez-vous, deux rôles, un organe ambigu. Mais initialement, le Conseil supérieur de la magistrature est un organe dédié à l'exécutif, parce que assistant du chef de l'exécutif, le président de la République. Maintenant, un débat se pose, ça et là, il faut que le président soit présent, ne soit pas présent. Aujourd'hui, la tendance, c'est le départ de l'exécutif du Conseil supérieur, le ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est le vice-président, et le président de la République lui-même. Le débat n'est pas tranché. En tout cas, au Sénégal, il est loin d'être tranché. Et moi, je suis militant de ce que le président de la République continue de présider le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est le président de la République qui est issu du suffrage universel. D'abord. Et c'est le président de la République qui donne, d'une manière ou d'une autre, qu'il soit présent au Conseil comme président, qu'il ne soit pas présent au Conseil. Les décisions du Conseil, les délibérations du Conseil sont forcément entérinées par le président de la République qui, par ses décrets. Même le Conseil supérieur, dans sa formation disciplinaire, les délibérations du Conseil sont entérinées et matérialisées par le décret du président de la République. Qui n'y siège pas, son ministre n'y siège pas, parce que c'est au moment c'est le tribunal des pairs. Maintenant, dire que le président de la République doit être présent, ne doit pas être présent, qu'il y soit, qu'il n'y soit pas, il y sera. Quand un magistrat est sanctionné, conformément à la procédure disciplinaire, il peut faire recours en grâce auprès du président de la République, après instruction du ministre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, le président peut prendre un décret pour gracier. Donc revenir plus ou moins, altérer ou en tout cas remettre en cause plus ou moins la sanction décidée par les pairs. C'est dire que le président n'est jamais absent, que ça soit en Afrique, dans les États où on a déjà instauré ça, au Burkina Faso ou autre, ou en France, le président est toujours impliqué dans les délibérations du Conseil supérieur. Maintenant, moi, ce que je pense être la bonne solution, et je peux me tromper, mais je parle sur le plan, je suis vraiment mis par une volonté de faire des observations scientifiques. Le Conseil supérieur, dans les pays francophones d'Afrique, le Conseil supérieur n'assume pas encore le rôle, depuis nos indépendances, le rôle qui lui est dévolu. Les magistrats ne s'y retrouvent pas. Le Conseil supérieur, vous, M. Diop, je vous défie de me dire quel immeuble, quel bureau de Dakar porte, au fronton, Conseil supérieur de la magistrature. Je n'en ai jamais eu depuis que le Sénégal est indépendant en 1960. Et c'est ça l'anomalie. C'est ça l'anomalie. Moi, je le dis aujourd'hui en toute liberté, parce que j'ai exercé la magistrature pendant 40 ans. J'ai été membre de droit du Conseil supérieur pendant 10 ans. Je peux en parler. Ce qui fragilise notre justice, ce n'est pas le cadre normatif. Il existe le cadre normatif, mais on ne l'a pas amélioré. On ne l'a pas amélioré. Et la justice vit ces travers-là aujourd'hui. Le Conseil supérieur, c'est entre le ministre de la Justice et le président de la République. C'est entre le ministère de la Justice et la présidente de la République. Parce que il n'y a pas un siège qui lui est dédié où les magistrats pourraient se rendre. Les militaires, ils ont un cercle mess. Les officiers se rendent là-bas. Les sous-officiers s'y rendent. Les magistrats, ils n'ont pas de siège. Les huissiers de justice ont un siège.
Les avocats.
Les avocats ont un siège dédié que l'administration, que l'État leur a affecté. Les notaires, la chambre des notaires a un siège. Mais tous ces corps qui gravitent autour du système, mais ont une visibilité. Hein? Les membres peuvent s'y retrouver, ne serait-ce que pour discuter, pour échanger, sauf les magistrats. Ils en sont privés. Pourtant, le Conseil supérieur a une ligne budgétaire qui lui est dédiée pour son fonctionnement. C'est l'État du Sénégal. C'est les États africains francophones qui devraient veiller à ce que l'indépendance de la justice existe tant du côté de l'exécutif, du judiciaire, que des citoyens. Parce que ce n'est pas seulement le magistrat qui est perdu, c'est également le citoyen. Parce que les citoyens ont besoin de poser un regard critique sur la justice, d'élever des récriminations et de les faire valoir devant ce qui anime le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas forcément le ministre de la Justice. Ce n'est pas forcément le président de la République. Moi, j'ai été ministre conseil juridique du président de la République. Aujourd'hui, je suis médiateur. Ce que les citoyens adressent comme récrimination sur la justice, ils l'adressent directement au président de la République. Parce que c'est au ministre de la Justice. Il faut, si on veut vraiment réformer, et apporter quand même, disons, un souffle à la justice. Je ne dis pas que ce qu'on est en train de faire n'est pas à faire. C'est très pertinent et c'est rassurant qu'un président s'installe pour parler de la justice. Mais la justice a besoin aujourd'hui que son cadre normatif soit, disons, plus ou moins redoublé, que le Conseil supérieur soit repositionné. Et le repositionnement de la justice passe par un siège abritant le Conseil supérieur, avec un budget, une animation faite, confiée à un magistrat de haut rang et une
justement,
administration.
C'est là que je voulais en venir. Comme le président de la République a déjà son palais, on siège du Conseil supérieur de la magistrature. Qui est-ce qui serait à la tête?
Mais non, on peut. C'est le Conseil supérieur qui nomme, qui désigne le magistrat chargé, en tout cas, secrétaire général du Conseil. Il faut lui donner une administration structurée. Prévoir même des bois de justice à l'intérieur, parce qu'un tribunal disciplinaire à l'intérieur. Nous allons siéger à la Cour suprême quand, disons, le tribunal des pairs. Mais c'est le siège qui devrait l'abriter. Vous allez en Algérie, c'est ce qui existe. Vous allez au Maroc, ainsi de suite, partout, même au Burkina Faso. Mais il faut que le siège du Conseil supérieur soit visible et animé, que les magistrats puissent s'y retrouver. Ce n'est pas seulement une animation comme ça, mais les magistrats ont besoin. Ils sont isolés, ils ont des problèmes de déontologie, ils ont des problèmes plus ou moins, des doutes parfois. Ils devraient pouvoir, comme dans le confessionnal de l'Église, se confier à une oreille plus ou moins discrète qui puisse leur prodiguer les conseils qu'il faut, parce que les magistrats, ils arrivent dans le métier très jeune, 25 ans. Bon, si on les laisse à eux-mêmes, c'est pas bien. Toujours parlant du Conseil, si vous me le permettez, je ne sais pas si je dois m'arrêter.
Bien sûr.
Je pense qu'il faut également repenser un peu, rééquilibrer les pouvoirs. Aujourd'hui, on se plaint de la justice, mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de repère. Les juges, parfois, sont sans repère. Les magistrats, je veux dire. Les chefs de cour d'appel, cour suprême, les chiffres de parquet, des cours d'appel, de la Cour suprême, sont quand même investis d'un pouvoir de direction périphérique. Dans la direction, dans le ressort de Dakar, le premier président, le procureur général, ont un droit de regard sur tous les magistrats du ressort qui relève de leur autorité. Mais à ces magistrats, la loi a même le statut, reconnaît, je pense, article 19, si je ne m'abuse, le droit d'adresser à tout magistrat qui se trouve dans la situation qui le justifie, de leur adresser des avertissements pour les maintenir quand ils sont dans l'infradisciplinaire, quand ils sont sur le borderline, comme on dit, dans une conduite plus ou moins intenable, ou en tout cas qui frise un peu l'indiscipline. Mais ces magistrats, aujourd'hui, ils ne peuvent faire que ça. Alors qu'on devrait pouvoir leur permettre de saisir le conseil de discipline. Le conseil de discipline. Et c'est ça entache l'autorité de ces magistrats. Quand vous ne pouvez pas faire punir votre collaborateur de façon justifiée, mais vous n'avez aucune autorité. L'autorité-là, c'est le pouvoir de saisir justement le Conseil supérieur en matière disciplinaire. Seul le ministre de la Justice l'exerce. Une bonne justice voudrait, un équilibre voudrait que ce rôle-là, le ministre de la Justice, le partage concurremment avec les chefs de cour et de parquet.
Vous avez parlé des réformes tout à l'heure. Pour beaucoup de personnes, le Conseil supérieur de la magistrature devrait être ouvert à d'autres corps de la justice, aux universitaires, à la société civile. D'ailleurs, l'actuel président l'a évoqué.
Le moment venu, on pourra toujours en discuter. C'est parce que le président a convié à des assises. Il a envisagé des assises. Moi, je dis simplement, je ne discute pas les avis du président. Du président de la République, ce que moi je donne comme avis, c'est ce que je vis en tant que chercheur, en tant que citoyen. Le citoyen doit, pour reconnaître sa justice, mais doit la situer. D'abord, au Sénégal, le grand drame, c'est que depuis 1960, le citoyen, que ce soit la justice pénale, la justice civile, bon, il vient quand il a un problème directement, qui l'affecte directement. Mais sinon, les citoyens constitués en association ne peuvent pas venir en justice. Et pourtant, la défense des enfants justifie que les associations qui ont, pour raison d'être, la défense de ces êtres vulnérables, la défense des femmes, les viols, parfois suivis de meurtres et tout ça, mais ces associations reconnues peut-être d'utilité publique devraient pouvoir se constituer partie civile. Ça embellirait la justice. Ça enrichirait le débat. Ça quand même donnerait plus de légitimité à la justice. Malheureusement, depuis 1965, date de la promulgation de notre code pénal, le code de procédure pénale, ça n'existe pas. Pour se constituer partie civile, il faut être directement, disons, victime de l'infraction. Je vais le répéter autrement parce que c'est l'article que je connais. La partie civile, c'est celui qui a été directement, disons, victime, en tout cas, frappé par le préjudice. C'est comme ça que je vais pas le dire. Mais on devrait pouvoir, dans certains cas, ouvrir le prétoire, par exemple, à ces associations. Ça aussi, ça accroît un peu les critiques et, bon, peut-être même le rejet que le citoyen manifeste par rapport à la justice. Il faut quand même permettre à ce citoyen d'exercer son regard critique. Je parlais de ça pour simplement revenir au Conseil supérieur. Parce que le citoyen qui se plaint contre un juge, contre un procureur, devrait pouvoir saisir le Conseil supérieur, qui aurait bien structuré avec cet immeuble et cette administration, qui aurait un comité des plaintes, une cellule des plaintes, qu'il instruirait concomitamment peut-être avec le ministre de la Justice. Mais ce n'est pas propre simplement au Sénégal, hein. Dans les conseils supérieurs d'Afrique francophone, vous allez dans les constitutions, c'est beaucoup d'audace. La justice est indépendante, la séparation, c'est très bien. Mais c'est des déclamations principielles. Parce que vite les lois organiques qui viennent en termes de statut, en termes de conseil supérieur de la magistrature, viennent enlever l'écume qu'il y avait sur ces vagues-là. Il y a beaucoup d'audace, mais beaucoup de témérité, de timidité également dans la mise en œuvre.
Mais un conseil supérieur dans lequel siégeraient les autres corps que j'ai évoqués tout à l'heure, la société civile, entre autres, parce que pour beaucoup, la justice ne doit pas être qu'une affaire de magistrats.
Les magistrats, je pense, ne sont pas contre. Mais il faudrait savoir qui siège, qui ne siège pas. Ça, c'est un débat que les uns et les autres pourront avoir. Moi, ce que je vois comme faiblesse, ce n'est pas que telle corporation siège, que telle autre corporation ne siège pas. La justice est rendue au nom du peuple. Il est normal que les démembrements du peuple soient quand même, disons, plus ou moins représentés. Je suis tout à fait d'accord avec une certaine composition qui serait autre que les magistrats. Mais moi, ce que je voudrais que l'on essaie d'instaurer, c'est quand même une majorité de magistrats membres du corps du Conseil supérieur élus par leur père. Ça leur donne beaucoup de force. Ça leur donne beaucoup de force parce qu'ils viennent avec le mandat de leur père. Il faut qu'ils y soient majoritaires. Ça, c'est une garantie. L'autre volet, je pense, c'est plus ou moins permettre à ce comité qui siège pour recevoir les plaintes, de colloquer les membres du Conseil supérieur, en dehors même du ministre de la Justice, en dehors même du président de la République, pour instruire des plaintes. Ça suppose également que ces gens puissent avoir accès à l'inspection générale de la justice pour les missions d'enquête. Ça suppose que ce Conseil supérieur, animé par les magistrats et les chefs de cour, dans le cadre de poursuites déclenchées par eux, puisse également avoir accès au dossier des magistrats tel que géré par la direction des services judiciaires et autres. Il y a quand même des ajustements à faire. Moi, je pense que les réformes sont faciles à mettre en œuvre, à mon avis.
Alors, ce qui revient souvent de la part des acteurs politiques, hein, et de certaines populations, la toute-puissance du parquet, ne poserait-elle pas problème un parquet sous la coupe de la chancellerie? Le poste de procureur, pour certains, devrait être l'objet d'un appel à candidature. Le processus a été lancé, mais ça traîne.
Moi, ce que je ne comprends pas, il ne faut pas qu'on prenne le magistrat pour un administrateur ou en tout cas un autre corps. Nous ne sommes pas. Le magistrat n'est pas un fonctionnaire ordinaire. C'est un fonctionnaire doté d'un statut qui déroge au droit commun du statut des fonctionnaires, qui a une évocation constitutionnelle. Le magistrat est le seul dans la fonction publique, mis à part le président de la République, à être évoqué à partir de son statut, à être évoqué par la Constitution. Les juges sont indépendants, les juges sont inamovibles. Les magistrats, ça, c'est la Constitution qui le dit. Donc, ce n'est pas un fonctionnaire ordinaire. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas à banaliser également. Maintenant, ce que je ne pourrais pas, moi, entériner comme, démarche, proposition, c'est de dire le procureur doit être indépendant. À quelle fin? On l'a essayé en France, on ne l'a pas fait. On l'a essayé ailleurs, ça n'a pas marché. Arrêtons de le faire. Ne créons pas des monstres qui vont échapper à notre contrôle. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y a des ressources dans notre code de procédure pénale qui sont inutilisées. On veut que le procureur soit indépendant. Laissons le procureur tel qu'il est et faisons en sorte que, quand il veut poursuivre, qu'on dise l'ouverture d'une information est conditionnée. Ça existe maintenant, est conditionnée au visa du président du tribunal, de la juridiction, qui au visa diliment, ça devrait être quelque chose d'obligatoire et de ferme. Mais on ne le dit pas, on dit l'avis. on donne un avis. Bon, ça fait perdre du temps parce que l'avis, le procureur ne le suit pas. Pour désigner un juge d'instruction, mais on devrait pouvoir dire c'est le président qui désigne les juges d'instruction. Ça, c'est une faiblesse. Pour ne pas oser ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'avis du président. Le président donne son avis, mais le procureur passe outre. Parce que l'avis ne lie personne. Il faut dire que c'est le président du tribunal qui répartit les dossiers après réquisition du procureur. Il saisit ses juges. Là, ça va donner une garantie de bonne justice. Je ne dis pas que ce qui existe n'est pas bon, mais ça va donner plus de garanties. Ensuite, ces mêmes juges qui sont saisis, il faut quand même parler des juges d'instruction au Sénégal. Un peu partout en Afrique. Le juge du siège, il est libre, il est inamovible, il est indépendant, c'est ce que dit la Constitution, c'est ce que dit le statut. Mais le juge d'instruction, il a une position précaire, il n'est nommé que par arrêté du garde des Sceaux. Si on veut que ce juge soit indépendant, soit protégé, il faut le nommer en conseil supérieur de la magistrature. C'est très simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Il faut le nommer en conseil supérieur de la magistrature. Mais savez-vous que le ministre de la Justice, dans une juridiction, peut choisir un juge sans que le président de la juridiction soit... Il n'est pas tenu. C'est par élégance qu'il l'informe. Il peut l'enlever en enlevant simplement son arrêté. Voyez la précarité. Je pense que le Sénégal devrait aller vers cette relecture de ces textes-là. En plus de ce qu'on va faire dans ces assises, je pense que le cadre normatif doit être relu. Moi, je le pense.
Une tâche désormais dévolue, Demba Kandji, au nouveau ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Vous le connaissez sans doute.
Oui.
A-t-il le profil de l'emploi?
Moi, je pense que c'est un bon magistrat. Et ce qui me rassure, c'est qu'il n'a jamais été autre chose qu'un magistrat. Il n'a fait que vraiment le prétoire. Donc je pense qu'il part, en tout cas à mon niveau, il part avec un préjugé favorable. C'est un magistrat, c'est une bonne personne, et vraiment je suis content de voir qu'un magistrat, ce qui arrive rarement, un magistrat arrive aux affaires. C'est désigné garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je souhaite vraiment plein succès à ce magistrat qui a blanchi sous le harnais et qui va pouvoir peut-être certainement mettre en œuvre les réformes qui vont sortir de ces assises envisagées par le président de la République. Maintenant, il faudra que tous ses collègues l'accompagnent. Que tous les collègues l'accompagnent parce que la tâche n'est pas aisée. Bon, mais je pense que Ousmane Diagne a quand même toutes les qualités pour réussir, pour remplir convenablement cette mission.
Quel est le premier acte qu'il devra poser pour rassurer?
Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas. Il y en a des multitudes, des foultitudes même. Je pense que...
Pour rassurer, ne serait-ce que le justiciable.
Le justiciable, vous savez aussi, bon, est-ce que le justiciable sera rassuré par sa justice? Moi, je ne le pense pas. On aura fait des réformes, c'est vrai. On va toujours faire des réformes. Il est nécessaire de toujours en faire. Il n'y en a pas, disons, il n'y en a jamais assez. Mais la justice ne vit que de critiques. Moi, je pense que la justice, bon, ce qui, enfin, ce serait idéaliste de dire que, bon, rassurer les justiciables. Il y aura toujours, entre deux litigants, au sortir d'un procès, il y en a un qui pleure, il y en a un qui rit. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un perdant, il y a un gagnant. Et celui qui perd, il critique d'abord. Et c'est peut-être la critique... enfin, il ne faut jamais faire cesser la critique en matière de justice. Je pense que ça, la critique, quand même, quelque part, nourrit la justice. En tout cas, l'aide à mieux voir. C'est pas rien qu'on ait mis un double degré de juridiction, qu'on ait même mis une cassation. Parce que, bon, c'est, la justice est rendue par des hommes, Mais je pense que, bon, il est en terrain connu, Ousmane Diagne, et il pourra quand même très vite trouver ses marques.
Ousmane Diagne, membre d'un gouvernement de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Gouvernement de rupture, disent plusieurs Sénégalais.
Oui, parce que bon, ce qui arrive quand même sont des nouvelles figures, c'est de nouveaux visages. Ils sont venus sur la base d'un programme que le peuple a plébiscité.
Mais seront jugés à l'épreuve.
Oui, bon, comme tout le monde. Mais bon, je pense que bon, ils ont quand même une onction populaire qui leur permettra quand même d'aller très vite. Et je pense qu'ils savent où ils vont. Hein. Moi, en tout cas, je suis tout à fait rassuré. Ce qui me rassure dans notre pays, c'est que nous avons connu cette alternance. C'est la troisième fois que nous la vivons. Et je pense que de 2000 à maintenant, de l'ONEL à la SENA, de 2000 à 2024, on a connu 3 alternances pacifiques. Et vous-même, vous avez dû être appelé de l'étranger pour être félicité. Ça veut dire que bon, c'est une fierté pour nous autres Sénégalais. Il ne faut pas que... Bon, maintenant, ceux qui s'installent, il faut leur donner quand même le temps de s'installer. Mais je pense qu'ils savent où ils vont. En tout cas, nous, on veut les accompagner.
ONEL, SENA, avez-vous dit actuellement, on parle d'une CENI, on y reviendra, mais déjà presque tous les ministères de souveraineté gérés par des hommes du secteur, justice, santé, intérieur, forces armées, ce dernier justement, à notre connaissance, a toujours été confié à un civil. L'on ronde avec l'orthodoxie qui voulait une cohabitation entre le civil et le militaire pour la gestion de la sécurité et de l'intégrité du territoire.
Mais je pense qu'on a déjà géré la sécurité intérieure.
Au ministère de l'Intérieur, peut-être.
Oui.
Mais la plupart du temps,
les forces armées, oui, c'est peut-être, sauf erreur de ma part, hein, parce que je ne connais pas l'histoire, en tout cas, de ce ministère de la Défense. Mais je pense que, bon, c'est peut-être un plus, hein. C'est peut-être un plus. Il est en terrain connu, mais il connaît les règles du jeu. Bon, je pense que être ministre, ça ne veut pas dire commander, hein? Forcément, non? Je ne pense pas. Mais je préfère vraiment, puisque c'est une première, je préfère, laisser faire en attendant.
Alors, Demba Kandji, médiateur de la République, ancien président de la Cour d'appel de Dakar, on va aller très vite sur les annonces fortes du chef de l'État. La transparence, la lutte contre la corruption. Sur quel levier appuyer pour une gestion transparente une gestion transparente des deniers publics?
Moi, je pense que tout ça.
Quelles sont les clés?
Je pense que c'est le président déjà a déjà annoncé la coureur. Je pense qu'il est arrivé à peut-être dire ça par pédagogie, mais déjà en disant qu'il veut.
Si je pose la question, c'est parce que durant votre parcours, vous avez eu à gérer des dossiers liés à la transparence.
Non, c'est là où je voulais en venir. C'est donner de la force à la justice, donner plus de force à la justice, c'est déjà lutter contre la non-transparence, la mal-gouvernance. Il faut que, dans notre pays, l'état de droit, et c'est ce que j'ai cru lire dans le discours du président, que l'état de droit soit quand même bien présent dans tous les secteurs. Que le débat se situe, que le juge, que le système judiciaire soit fort et se situe au milieu de l'arène. Que le puissant ou le faible, se retrouve mêmement à égalité devant le juge. Voilà. Un état de droit, c'est ça. Moi, je pense que si on veut de la transparence, le président est sur la voie. Il a déjà donné, en tout cas, le ton en annonçant, disons, les assises de la justice. Bon. Moi, je pense qu'en renforçant, en tout cas, les moyens de la justice et en la rendant plus visible et plus proche, du citoyen, en permettant surtout à ce dernier d'accéder aux juges et de faire valoir son regard critique, on peut quand même lutter contre la non-transparence, la mal-gouvernance et autres.
Mettre fin au passe-droit.
Oui, oui. L'état de droit est contre tout ça. L'état de droit, c'est le contraire des passe-droits et de tout ça. Je pense. Hein.
Assise de la justice, mais également concertation nationale pour une réconciliation nationale. Quel devra être le rôle de la médiature de la République dans ces concertations nationales pour une réconciliation nationale?
La médiature, je pense, ce qui est peut-être sa mission, c'est exactement ça. Repositionner le citoyen au centre vraiment du jeu, disons, de la vie publique. Lui permettre d'accéder à son juge, lui permettre d'accéder à l'administration. Je crois que nous autres médiateurs, en tout cas de la OEBF, de la francophonie, notre credo, c'est quand même de faire en sorte que la maladministration cesse. Et je vous assure que la maladministration existe. Pas ici seulement, hein, dans la francophonie en général. Les pesanteurs de l'administration font que parfois le citoyen, bon, s'il n'est pas très persévérant, il renonce très vite à ses démarches, à sa quête de justice, à sa quête du service public. Donc nous, notre problème, et heureusement d'ailleurs, les médiateurs n'ont pas que le droit pour faire ça. Ils ont également l'équité. Parce que plus que le juge et l'administrateur qui n'utilisent que le droit, nous utilisons l'équité. Ça veut dire que parfois, il peut arriver que même l'administration, dans sa toute puissance, gagne son procès contre un citoyen et que le déséquilibre soit tel que le médiateur puisse demander à l'administration de renoncer à toute partie, disons, de la décision qui lui est rendue au profit du citoyen. Ça, c'est l'équité. Le juge ne juge pas en équité, il juge en droit, l'administrateur également. Mais nous avons le droit, comme c'est les institutions dont je viens de parler, mais en plus nous avons l'équité. Donc moi je pense que le médiateur de la République a un rôle éminent à jouer dans cette quête de conciliation, de réconciliation, dans cette quête de bien-être vraiment des populations en général.
La médiature ne devrait-elle même pas d'ailleurs diriger ces concertations?
Je ne pense pas. Ce n'est pas le rôle du médiateur que de diriger des concertations, mais le médiateur participera. Parce que sur toutes ces questions sur lesquelles vous m'avez interpellé, nous travaillons et moi je veille à déposer toujours
un rapport.
Par écrit un rapport. Parce que ce dont je viens de vous parler sur le conseil, du conseil supérieur, de beaucoup de choses sur la justice, moi je l'ai déjà documenté. La justice n'a pas besoin de bouleversement. Dans tous les cas, le juge, quoi qu'on fasse, ne sera que saisi. Il ne se saisira pas. Le juge ne viendra, amenez-moi le dossier de Georges. Le juge ne le dira jamais. On lui déposera un rôle quand c'est au correctionnel. On lui déposera un rôle quand ce sera au civil. Et il choisira d'acter en se posant toujours deux questions. Est-ce que c'est d'abord recevable? Est-ce que je suis compétent? Si à ces deux questions, la réponse est affirmative, il ne peut que juger. Parce que ne pas juger pour un juge saisi régulièrement, c'est commettre un déni de justice. Vous ne pouvez pas dire « j'ai pas la solution ». Vous êtes tenu de donner une solution au litige qu'on vous soumet. Vous êtes tenu de donner un litige, vous êtes tenu de le faire dans les délais raisonnables. Vous êtes tenu de le faire en droit et conformément à la loi. Vous êtes tenu également, quelles que soient les menaces qui planent sur vous, quelles que soient les craintes, de le faire sans peur ni crainte. Voyez-vous. Voilà donc beaucoup de choses qui font que l'acte de juger est quand même un acte qu'on réformera difficilement. Parce que c'est un acte standardisé, universel. Voilà ce que je voulais vous
dire. Sauf que dans certains cas, on voit que certains dossiers sont diligentés beaucoup plus rapidement que d'autres.
Oui, mais qui les diligente?
Le juge toujours.
Non, ce n'est pas le juge qui les diligente. Celui qui les amène devant le juge, c'est celui-là. Le juge n'a pas à choisir un délai de temps par rapport à nous. Il n'en a pas. C'est l'opinion, c'est les fantasmes de la rue. Le juge n'a pas à dire, oui, il y a tel dossier qui est venu avant tel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans un rôle correctionnel, quand vous êtes à l'audience, vous choisissez de juger d'abord les dossiers dans lesquels il y a des avocats constitués. C'est une courtoisie. vous demandez aux avocats d'appeler, suivant leur ordre d'ancienneté, leurs affaires. Ensuite, vous passez à ceux qui sont détenus et qui attendent. Et vous passez aux autres qui comparaissent libres. Il y a toujours un ordre. Le juge, c'est l'élégance. Le juge, c'est la courtoisie. Le juge, c'est l'urbanité. Mais les gens ne le délestèrent pas comme ça, parce que quand on vient au tribunal, on vient avec ces sentiments qui ne vous permettent peut-être pas de tenir compte de tout ça. Mais ça existe. Hein. Mais le juge ne choisit pas le dossier. C'est le dossier qui vient devant le juge.
Alors, vous êtes médiateur de la République depuis 2021, août 2021, si je ne m'abuse. Si vous aviez à faire un bilan chiffré de votre passage à mi-parcours à la médiature de la République.
Je peux pas faire...
Ou bien c'est trop tôt.
Je ne peux pas faire mon éloge à moi-même, mais je pense que notre bilan est bon. Il est même très bon. Il est même très bon parce que nous avons quand même restructuré notre administration. Nous avons un plan quinquennal de développement, un plan stratégique, je veux dire. Nous avons un plan de travail annuel, PTA. Nous ne marchons pas quand même au hasard, à la médiature. Et en dehors de cela, nous nous efforçons de recruter dans les régions, des représentants, comme on le fait dans la presse, on en a parlé tout à l'heure. On essaie d'avoir des jeunes aguerris, parce que les surdiplômés maintenant sont même en zone rurale. Donc on essaie quand même de redonner à la médiature, disons, un autre souffle. Nous publions une revue, je vous en remettrai tous les trimestres, nous en publions, et nous avons un volet international très riche. Sur le plan international, le médiateur du Sénégal est quand même reconnu, parce que je suis membre du conseil d'administration de l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie. Voilà, entre autres choses. Tout n'est pas rose, mais nous essayons quand même d'avancer.
Demba Kandji, médiateur de la République, ancien président de la Cour d'appel de Dakar. Une minute confession, si vous le permettez.
Vous le permettez ? Je vous en prie.
Alors, lors du dossier Khalifa Aboubakar Sall, vous avez été critiqué par la défense, sous Abdou Diouf, critiqué par l'opposition, mais cela ne vous a pas empêché de gravir les échelons, même sous Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets à nourrir durant votre parcours?
Non, je rends grâce à Dieu. J'ai fait un parcours de 40 années, mais un parcours quand même assez riche. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Peut-être que tout n'a pas été parfait dans la vie. S'il fallait revenir en arrière, il y a des choses des actes qu'on a posés qu'on n'aurait peut-être pas posés.
Par exemple, si vous donnez un exemple.
Non, je ne peux pas dire tel ou tel acte en tant que tel. Mais je rends grâce à Dieu globalement. Globalement, parce que moi, j'ai eu un parcours essentiellement dans le pénal. C'est très difficile, le pénal. C'est pas très, très facile, parce que bon, c'est quand même... C'est une matière vivante, le pénal. Mais j'ai pu quand même faire un parcours à l'issue duquel je peux dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maintenant, peut-être que bon, s'il fallait refaire le chemin, on l'aurait balisé autrement. Mais en tout cas, je rends grâce à Dieu.
Vous avez la conscience tranquille.
Absolument.
Merci Demba Kandji.
Merci beaucoup.
Merci Georges. D'être venu au grand jury.
C'est moi qui vous remercie.
Médiateur de la République, ancien président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji était notre invité. Merci à Hassan Diouf qui a assuré la partie technique de cette édition. Excellente journée à toutes et à tous et bonne fête de Corité. À dimanche prochain pour un autre numéro de Grand Jury.
RFM, le journal.